Vendredi 28 juillet 2023. Je retrouvais Tel Buisson, artiste plasticienne et architecte, dans la salle de l'exposition du Mémorial des Vassieux-en-Vercors, où elle est en pleine installation de son exposition « Grand-père, comment t'appelles-tu » qui ouvrira le 1er août. La mise en place n'est pas encore achevée et Tel nous guide à travers l'espace, les objets, les images de cette exposition en train de se faire.
Alors c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui a une profondeur de 20 mètres, qui fait 5 mètres de large, et une belle hauteur sous plafond, avec de 3,50 m, avec un matériau brut au sol et sur les murs, du béton, et donc c'était extrêmement inspirant pour venir installer des rails de chemin de fer, en quelque sorte reconstruire dans cet espace l'arrivée à Auschwitz, d'une très très grande partie des Juifs qui ont été déportés et de fabriquer quelques éléments artistiques, notamment un mémorial avec des traverses et des fluorescents qui sont là pour représenter à la fois donc le train, mais aussi pour représenter le judaïsme par les 7 branches de la menorah qui sont représentées par les fluorescents que vous voyez. L'espace, donc, on est à la fois dans Auschwitz, mais pas que. C'est un endroit où il y a le parcours de mon grand-père que j'ai suivi depuis donc Paris, mais jusqu'à sa ville natale où il est né, qui est juste à la frontière de l'Ukraine, à Ruda. Ça m'a amené aussi à aller jusqu'à Varsovie pour repérer où était là où il est né, repérer la fabrique familiale, repérer les tombes diverses et variées, mais qui sont encore existantes, puisqu'en fait, la problématique de Auschwitz, c'est de ne plus avoir de corps et de tombes derrière, et donc de venir inscrire dans un lieu une commémoration. L'espace, donc, c'est, on peut dire que on est dans un wagon. Littéralement, on rentre dans un wagon. Alors, bien entendu, c'est pas un wagon qu'on va trouver avec du bois, mais c'est bien sûr une transcription artistique, un peu avec une distance. Moi, ça m'intéressait de savoir combien de personnes pouvaient rentrer dans un wagon quand on imagine qu'il y avait 100 personnes qui seront de là à là sur 7 mètres. C'est complètement extraordinaire de se dire qu'il y a à peu près une centaine de personnes. Comment on fait pour rentrer tous dans ce wagon? Alors, ce travail est un travail vraiment de reconstitution, sans figurant, pour se mettre à la place d'eux, dans les pas d'eux, sur les traces d'eux, et de comprendre au fur et à mesure le cheminement d'une personne. Bien entendu, c'est la communauté, hein, évidemment, mais au travers de mon grand-père, dont je ne connaissais pas le nom, que je découvre pour la première fois au mémorial de la Shoah.
Vous voulez les lire les noms?
Alors, Sroul Ruger, moi je connaissais son nom de famille, Ruger, qu'on peut dire aussi Ruger en allemand, R-U-G-E-R. Et Sroul, c'est le surnom de Israël. Donc moi je connaissais vaguement son prénom, Israël, mais pas plus que ça. Et je ne connaissais que les récits de ma grand-mère et de ma mère, mais de ma grand-mère essentiellement, Shuma Ruger ou Hélène Ruger, qui a réussi à passer la ligne de démarcation et venir jusque dans le Vercors pour se protéger. Et ma mère, qui avait 8 ans à l'époque, 9 ans, a fait sa scolarité à l'école de Méaudre, l'école de Méaudre qui depuis a pris son nom, qui s'appelle Agnès Ruger Buisson. La première exposition que j'avais montrée à la mairie du 9e arrondissement à Paris, c'était vraiment sur les traces, sur les pas de Sroul Ruger, et j'avais reconstitué donc date après date. Je me rendais sur les lieux avec mon appareil photo, une chambre photographique, une chambre technique argentique avec un pied, et je photographiais le jour, 70 ans après, des événements traumatique, des arrestations. Quand mon grand-père a pris le train, j'ai photographié la gare de Drancy-le-Bourget. J'ai pris moi-même un train 70 ans après, évidemment. Et j'ai essayé de suivre au plus près le transport, le cheminement de son train pour me rendre donc jusqu'à Auschwitz. Alors moi, je suis passée par Cracovie, parce qu'à l'époque, je n'avais pas connaissance du chemin, je n'avais pas réussi à trouver, et en bus pour la fin, tandis que lui était allé directement de Katowice, et il n'était pas du tout passé à Cracovie, il était allé directement à Auschwitz. Et quand on arrive à Auschwitz, il y a une rampe que l'on voit ici dans cette photo, la dernière qui est là. Et donc moi-même, je suis allée l'attendre à 15h20 ou vers 15h. Je ne me rappelle plus exactement l'heure. Il faudrait que je révise mes horaires. Mais moi, j'étais là-bas à cette heure précise et je l'ai attendu parce que lui, il a mis 3 jours et moi, j'avais mis un jour et demi en première classe pour certains changements que j'avais avec une douche, ce que j'imagine qu'il n'avait pas. Et là, je n'ai fait que enregistrer des sons parce que le protocole, je photographiais, mais aussi je faisais des enregistrements sons. Et là, je n'ai que enregistré parce que je me disais qu'il ne voyait rien du tout depuis son wagon.
Vous avez essayé d'une certaine manière de reconstituer l'espérance sensible de votre grand-père.
Oui, c'est vraiment une approche sensible pour me mettre un peu dans sa peau, savoir ce que ça veut dire que de partir. Je ne le connaissais pas, hein, on en parlait extrêmement peu, donc c'était plutôt ma grand-mère qui racontait les choses sans vraiment l'évoquer. Je crois qu'il y avait aussi beaucoup de tristesse, un peu de colère aussi qu'il ne soit pas parti à temps. Elle était pas, voilà, elle-même, elle a été arrêtée au Veldiv avec ma mère. Il y a 2 versions de l'histoire de cette arrestation du 16 juillet. Très tôt le matin, des policiers viennent frapper à la porte. Ma grand-mère, la première version, c'était ma grand-mère avait dit à mon grand-père, surtout n'ouvre pas. Et puis la concierge avait dit, mais si, ils sont là, insistez. Donc ils sont remontés et là, mon grand-père a baissé les bras et a ouvert alors que c'était une porte blindée. Donc ma grand-mère lui en a beaucoup voulu. Et ensuite, ils sont arrivés rue Nélaton au Veldiv. Au Veldiv, il y a encore plusieurs versions. Il y en a une de ma grand-mère, ils rentrent littéralement dans le Veldiv et ma mère et ma grand-mère s'échappent. Et une autre version, d'après ma mère, où ils ne sont pas rentrés dans le Veldiv et ils ne restent que dans la rue, et ils arrivent à se faufiler dans une entrée de maison, hein, puisque la rue Nélaton, ou le vélodrome d'hiver, pour reprendre ça, le vélodrome d'hiver est situé à côté de la tour Eiffel, donc j'ai une photo qui montre la tour Eiffel à côté, comme ça on arrive à situer, bah oui, c'est à Paris le vélodrome d'hiver, c'est pas un truc abstrait. Et c'est bordé de maisons, d'habitations haussmanniennes. Et donc, elles se sont cachées derrière une porte et sont ressorties en enlevant juste avant l'étoile juive qu'elles portaient sur leurs vêtements. Et ma mère, qui parlait un français parfait, sans accent, a demandé, il y avait un cordon de policiers, pardon messieurs, et les policiers les ont laissés passer. Et voilà. Et donc après, il y a cette traversée de Paris, très angoissante parce qu'elles sont dans un wagon, dans un wagon de métro qui est plein de policiers, encore une fois, et de policiers en civil et en uniforme. Et elles essayent de retrouver ma grand-mère. Elles y arrivent, mais tout est cerné, hein, tout le quartier où elles étaient, donc. À Belleville est cernée, complètement cernée. Donc elles réussissent à demander l'hospitalité et ma grand-mère vient les aider. L'oncle qui était encore là vient les aider et elles arrivent à avoir un passeur qui va les exfiltrer de Paris jusqu'à Châteauroux. Alors ça encore, c'est une autre histoire que j'ai photographiée aussi, mais là, ça, la deuxième exposition que j'ai faite. Donc là, vraiment, la première, c'est je vais jusqu'à Auschwitz en suivant les pas de mon grand-père. Je retourne pour comprendre d'où il est parti. Donc il est parti de Danzig ou d'Angst, autour de la mer Baltique. Mais avant, je vais à Varsovie, un troisième voyage où je visite tous les lieux qui ont été complètement recouverts par des ruines et plus rien n'existe, même la toponymie, c'est-à-dire les noms des rues n'existent plus et il n'existe plus rien en fait. Moi je fais un gros travail de plan où je superpose le plan de l'ancien Varsovie avec le plan du nouveau Varsovie.
On peut dire à nos auditeurs et auditrices que vous faites des travaux sur les plans aussi, parce que votre travail d'architecture, il est très présent dans ces travaux d'artistes que vous avez et des mémoires que vous avez entrepris.
Oui, alors je fais effectivement ce travail de plan, notamment par exemple ici, on peut voir sur le plan de Birkenau ce dessin de Birkenau, j'ai essayé de repérer. Alors c'est très documenté, hein, c'est des plans que je redessine, hein, c'est du redessin. Mais par contre, il était important pour moi que dans mes redessins, que j'utilise non pas une pointe sèche ou une mine de plomb. Une mine de plomb, ça sonne bien, une mine de plomb, une pointe sèche, c'est sec. Mais un pinceau, parce que quand je commence à dessiner, comme au bout de mon crayon ou de mon geste, il y a un peu d'âme, en tout cas j'espère, je préférais venir caresser chaque espace des baraques, des lieux qui sont là pour commémorer, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dessine, j'ai un peu de pensée, je pense exactement à ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la question de l'échelle du plan, qui est une réduction, et revisiter comme si j'étais à l'intérieur d'eux. Donc c'est vraiment un travail presque de phénoménologie où je rentre à l'intérieur d'un plan, d'une ville. Donc pour Varsovie notamment, cette superposition me permettait donc de mettre mon pied photographique à des endroits presque inappropriés, hein, où je vois des choses qui sont extrêmement contemporaines et qui sont étonnantes, surtout quand je dis, tiens, là, avant, il y avait la fabrique de mon arrière-grand-père, une fabrique de livres, de carnets, de papier, voilà.
Dans ces travaux, les dessins, il est complémentaire avec les travaux de photographie et il y a encore d'autres matières que vous avez mobilisées. Je vois, par exemple, un tissu au centre de la pièce.
Alors, le tissu, c'est pas n'importe quel tissu, c'est un tissu en lin. C'est du lin, évidemment, j'avais en tête le linceul que mon grand-père n'a pas eu. J'ai ce que l'on voit là, qui est suspendu, c'est son acte de décès. Donc, le jour où moi, je prends la route pour Auschwitz, littéralement le matin, où je m'apprête à aller photographier la gare depuis laquelle il est parti et ensuite me rendre moi-même à Auschwitz, on m'envoie, le musée d'Auschwitz m'envoie l'acte de décès de mon grand-père et dessus. Et quand je l'ai reçu par mail, 750 KO à peu près, ça a été une très grande violence, parfois quand on reçoit des choses. Et là, ça fait presque boum dans la tête, surtout quand on commence à lire les informations et qu'on comprend, je comprends, qu'il est mort le 15 septembre 1942 à 18h20 à Auschwitz, in Auschwitz, Kasernenstrasse. L'enregistrement, c'est le 15 octobre 1897, je ne vais pas m'essayer à la lecture des chiffres allemands. Ruda, qui est né à Ruda, Kreis Lublin. Et tout est donné, ses parents, sa mère. Alors, j'avais déjà des informations, il y a ma grand-mère qui apparaît dessus comme étant sa femme. Et on voit qu'il est mort d'une insuffisance cardiaque. Il est parti le 19, alors il est arrêté le 16 juillet à la rafle du Veldiv. Il arrive, je crois, le 16 ou le 17 à Drancy. Moi, je photographie Drancy, la cité de la muette, le 17. Le 19, il part de Paris, Drancy-le-Bourget, et il arrive le 21 juillet à Auschwitz, et il meurt le 15 septembre 1942, voilà, presque 2 mois après. Voilà, il y a des informations extrêmement précises et de tomber sur un acte de décès. Et cet acte de décès a fait boum dans ma tête ou dans mon corps quand je l'ai reçu par mail, 700 KO. Et je me dis, mais en fait, c'est moi qui suis KO et je vais l'agrandir. Et donc, j'ai voulu au départ l'imprimer sur un lin. Et en fait, j'ai fait une installation un tout petit peu différente et donc on a de la lumière qui l'éclaire par derrière, et c'est un très grand objet qui fait 3 mètres de haut. Alors, il se retrouve à plusieurs endroits, le linceul aussi. Donc, je suis retournée à Auschwitz en septembre, le 15 septembre. Alors, non pas 2012, mais 2022. Donc, j'y étais. Et j'ai décidé donc de photographier Auschwitz avec un nouveau regard, à nouveau, 80 ans après. Alors là, je vais vous laisser le découvrir. Et en fait, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. Quand même, il faut laisser quelques teasers. Et donc, il y a une autre œuvre qui fait face. Et celle-là aussi, je vais aussi la laisser découvrir. Il faut venir voir. Alors, il y a une autre installation dont je n'ai pas parlé, qui est antérieure, qui a aussi été présentée à la mairie du 9e arrondissement, mais quand j'ai demandé au mémorial ici de la Résistance en leur disant « Est-ce que vous voulez vraiment les chaises vides ?» Ils m'ont dit « Oui, 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 on veut les chaises vides. » En fait, c'est des chaises qui parlent et c'est des chaises qui posent des questions qui sont au centre de la pièce. Et je sais que, notamment quand je l'ai présentée à la mairie, eh bien, les gens parlaient autour de ces chaises. Je présentais, j'introduisais ces chaises. Qu'est-ce que ça racontait le fil rouge de l'histoire. Le jour où je suis arrivée devant le mémorial de la Shoah, devant le nom de mon grand-père, que je tombais nez à nez devant son nom, son prénom, Sroul Ruger, son prénom que je ne connaissais pas. J'avais un pull rouge, alors j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, j'avais un pull rouge, et puis je ne savais pas quoi laisser, alors j'ai laissé des petits lambeaux de laine rouge. Et cette laine rouge, en fait, c'est aussi le fil de l'histoire. C'est cette couleur que j'avais envie d'amener partout avec moi. C'est un petit peu de moi là-dedans, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le fil de l'histoire, c'est ce qu'on raconte. C'est se dérouler et même si moi j'ai découvert assez tôt quand même le nom de mon grand-père, j'ai mis 6 ans pour en faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est pas tout de suite finalement, puis quelque chose d'assez personnel, on laisse plutôt, quand on a un travail personnel, on le met après, mais il est venu comme une urgence.
Finalement, tout l'effort a été de transformer un témoignage personnel, une expérience personnelle, en quelque chose qui parle aussi à tous les autres, ceux qui ont des mémoires à partager dans ces sens et ceux qui n'ont pas de mémoire personnelle liée à ces événements.
Oui, tout à fait. Mais par exemple, je tendais l'oreille quand il y avait des visiteurs, parce que j'étais en résidence. Je restais la journée dans l'exposition. Et dès que quelqu'un avait eu un trauma, une souffrance, un être cher qui était mort, et on en a beaucoup plus qu'on ne le pense, j'entendais des gens en parler. C'est-à-dire que c'était le moment où la chaise vide, la personne qui avait disparu un peu trop vite ou qui n'avait pas... Enfin, le deuil qui n'était pas fait, elle pouvait venir s'asseoir. En tout cas, ça, c'était un lieu de communion, pas à moi, mais puis les gens se parlaient entre eux. Bien sûr, c'était quand deux personnes venaient, elles parlaient, ou en tout cas, il y avait quelque chose qui naissait. L'exposition, peut-être on peut parler du titre, elle s'appelle « Grand-père, comment t'appelles-tu ?» était importante aussi. J'ai eu beaucoup d'enfants et de jeunes qui sont venus. Alors on peut se dire « Oh là là, mais un sujet comme ça, si... » Ben non, parce que « Grand-père, comment t'appelles-tu ?» on s'est aperçu en faisant de ce travail, et notamment à Livry-Gargan, au lycée professionnel qui m'a invité à intervenir auprès des jeunes, que ça concernait pas que des personnes qui de la résistance ou qui issues de problématiques de la guerre, la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, mais des jeunes de maintenant qui venaient de différentes contrées, d'Afrique, de Turquie, et grand-père, comment t'appelles-tu, n'avaient pas forcément connaissance du nom de leur grand-père et pourquoi l'arrière-grand-père ou le grand-père était venu ici, pourquoi le père avait décidé ou la mère avait décidé de rester, pourquoi ils étaient en France, qu'ils étaient contents finalement en France. Donc ça a pris à peu près un an et demi, ce travail. C'est un travail qui a été assez porté par ce groupe d'enseignants formidables.
Et les noms de l'exposition, vous l'avez trouvé tout de suite ou vous avez entrepris votre démarche et à fur et à mesure vous avez... ressenti la justesse de ce nom.
C'est venu au fur et à mesure, mais c'était aussi m'approprier son nom, comment je vais l'appeler, est-ce que je l'appelle papy, puisque j'appelais mamie, est-ce que c'est papy, est-ce que c'est Zaydele, parce que c'est Zaydele en yiddish, ou est-ce que ça serait Papele, qui serait en fait le petit nom que j'ai décidé de lui donner. Bon, voilà, ou en tout cas je m'essaye encore avec ces noms-là. Alors, il y a les chiffres, mais il y a aussi les dates et les lieux, comme des points cardinaux que j'essaye de retrouver, donc une sorte de verticalité imparable. Si c'est là, c'est là. Si c'est cette date, qu'il pleuve ou vente. Donc, comme c'est un travail de photographie, ben, la question de l'ombre ou pas de l'ombre, ben, elle n'a aucune importance. Je fais la photographie, et quand je fais la photographie à la chambre, ça prend un peu de temps, donc il y a une forme de commémoration également. Et le lieu compte beaucoup, et donc... par exemple, les récits qui ont été nombreux pour la traversée de la ligne de démarcation qui a été effectuée par ma mère et ma grand-mère. Nous, enfants, on l'entendait très régulièrement, mon frère, ma sœur, on l'entendait extrêmement, enfin, je ne sais pas, peut-être 10 fois par an, à chaque fois qu'il y avait des convives qui venaient nous rejoindre. C'était « Ah, mamie, raconte, ah, comment ça s'est passé ou... ?» Et là, on retraversait la ligne de démarcation, le stress en arrivant à la gare. Quand je dis « en arrivant à la gare », nous arrivions à la gare. Donc maintenant que j'ai identifié la traversée, le passeur dont on n'a pas vraiment compris s'il livrait aux Allemands ou si c'était de la, une forme de...
résistance.
Non, je sais pas. En tout cas, c'est pas clair là le truc. C'est entre le passeur véreux et le passeur qui a fait son boulot. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, j'ai réussi à identifier où c'est par le travail d'associations qui m'ont aidé à repérer les choses.
Donc, il reste aussi des énigmes encore dans cette reconstitution.
Ah oui, bien sûr, et énormément d'énigmes, de questionnements. Mais les archives sont très riches. Si je prends les archives, par exemple, j'ai retrouvé la carte d'identité que ma grand-mère a perdu, la carte d'identité qui a été confisquée à ma grand-mère une fois qu'elle arrive à Châteauroux, et j'ai retrouvé sa carte d'identité sur laquelle c'est en 4 volets et sur laquelle est marquée juive, où il y a son visage photographié de profil, c'est même pas de face, et dessus il y a ses empreintes. J'ai jamais eu autant d'informations qui concernent ma grand-mère sur la question du toucher, grand-mère que j'ai connue hein, jusqu'à mes 15 ans, mais j'ai des informations énorme, dont un procès-verbal qui a été rédigé par M. Alexandre Bosseau, qui était gendarme, à la gendarmerie de Loche. Et j'en parle parce que ce monsieur a été déporté lui-même. Donc ma grand-mère a fait l'objet d'un procès-verbal parce qu'elle arrive à un endroit dit Loche. Dans son récit, elle dit que c'est quand elle est arrivée à Châteauroux qu'elle a été arrêtée et qu'il y a eu un procès-verbal ou l'équivalent. Donc, bon, il y a des incohérences comme celle-là, mais dans les informations, c'est extrêmement précis. Donc, je sais qu'elle est arrivée à Loche, qu'elle a été arrêtée à 9h15, qu'elle a dû, à un moment donné, être redirigée vers la gendarmerie de, non Loche, mais de Châteauroux. Et là, sa carte d'identité a été confisquée. Elle a dû rester... en résidence, enfin, c'était pour assigner à résidence. Et puis finalement, son fils vient la chercher, elle et ma mère. Donc, Victor Rugère, qui était très impliqué dans la résistance grenobloise et du Vercors. Et grâce à lui, ils vont d'abord à Lyon, à Villeurbanne. Alors, à Villeurbanne, ma grand-mère se fait arrêter à nouveau. Elle va au petit dépôt, s'échappe de l'Anticaille, encore une fois, c'est rocambolesque, traverse...
La fuite est un élément qui recourt dans cette histoire.
Ah oui, la fuite, et moi j'essayais de suivre à chaque fois son trajet, et donc qui m'a conduite jusqu'au Vercors, et ce qui nous ramène ici. Donc non pas la boucle est bouclée, mais je crois que c'est assez extraordinaire de pouvoir... faire le tour de cet événement depuis Paris-Auschwitz, depuis Paris-Méaudre, et avec le nom de ma mère qui figure sur l'école dans laquelle elle a pu travailler comme écolière de ses 8 ans à 11 ans.
Vous Vous mettez en scène des traces que vous avez pu trouver, des documents, on a parlé des certificats et il y a des photos encadrées, des documents que vous avez pu trouver aux archives. Mais vous mettez aussi en scène l'absence de certaines traces et on peut voir ici un album qui ne contient pas des photos.
Alors oui, ça c'est l'album vide. L'histoire est un peu longue, mais ma grand-mère s'échappe. Ma grand-mère est arrêtée à Villeurbanne parce qu'elle est partie de Châteauroux sans laisser de traces, mais elle avait quand même donné son adresse à Villeurbanne où elle était attendue par son fils. Et comme elle ne veut pas confondre son fils et son neveu, c'est-à-dire comme elle ne veut pas que son fils et son neveu soient arrêtés, elle part vite de l'appartement où elle était, mais prend les photos de l'album où il y a des photos de mon oncle et de Samuel Mellement, et les jette, tire la chasse, et on n'a plus de photos. Et on a un album, qui est l'album qu'elle avait pu faire envoyer. Alors on peut se demander, oui, comment est-ce qu'elle avait tous ces documents-là ? Ben, c'est-à-dire qu'elle avait déjà tellement anticipé son départ depuis, en zone occupée jusqu'à zone non occupée, son fils l'attendait. Son fils les attendait, elle a réussi à faire acheminer un certain nombre d'objets, donc, dont cet album. Et cet album, après la guerre, n'a jamais réussi à retrouver sa place, sinon d'être un être un peu errant. Et voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc j'ai une installation qui montre cet album vide, ouvert sur cette page vide. Et quelque part, les photos que j'ai faites, je pense, sont des photos qui racontent peut-être pas les personnes, mais qui racontent le trajet et le destin de ces personnes qui ont traversé la France. L'album vide.
Encore, pour revenir sur votre travail sur les traces et les documents, on a ces documents d'archives qui sont écrits à la machine à écrire et vous avez posé une machine à écrire dans votre installation.
Alors oui, en plus c'est une machine à écrire c'est une machine continentale qui est allemande, dont, si je ne me trompe pas, le modèle est de 1937, donc typiquement qui aurait pu servir aux agents français qui ont rempli les fichiers. Donc le fichier juif, c'est quelque chose qui est le point noir en fait qui fait très très mal dans l'administration française. Il a été constitué sous l'impulsion bien évidemment du nazisme, mais avec cette envie quand même de répertorier tous les juifs de France. D'ailleurs, ma grand-mère, on lui avait dit, Madame, vous êtes sûre ? Parce que tout le monde, tous les policiers n'étaient pas, tous les policiers n'étaient pas vendus. Il y en a qui disaient, ma petite dame, vous êtes sûre que vous voulez figurer sur ce fichier ? Et elle avait tellement peur qu'elle a souhaité être présente sur ce fichier. Donc, à cause de ça, ils ont été arrêtés. Alors, donc le fichier juif, je ne montre que les documents de ma famille, je ne montre pas des documents autre que ce que je peux montrer, mais le fichier juif, c'est le fichier aussi de Drancy, c'est le fichier du départ du convoi numéro 7 de mon grand-père, c'est le fichier du Veldiv où ma mère, ma grand-mère et mon grand-père sont arrêtés, enfin voilà, c'est tout ça que je montre. Et je montre cette machine parce que derrière, alors elle est posée sur un objet qui n'est pas anodin, qui est une palette. La palette, elle exprime aussi le côté industriel que je voulais montrer et elle figure aussi le sol, parce qu'elle est placée à l'intérieur de l'épure du wagon, elle exprime aussi le sol du wagon en bois. La palette donc est au sol et à gauche de la ou à droite, je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais il y a aussi une plume et de l'encre, parce que derrière une machine, il y a une personne et une personne qui signe et il y a un homme. Cette machine est très importante et le passage entre finalement cette condamnation à mort, le crime de bureau, qu'on peut appeler le crime de bureau, c'est pas moi qui ai inventé hein, cette, cette, ce mot-là, le crime de bureau, ben, le crime de bureau, progressivement, ben, c'est un crime et qui conduit vers la mort et donc, dans le meilleur des cas, une pierre tombale individuelle ou collective si on n'a aucune trace du corps. Et c'est pour ça que j'ai mis une pierre à droite qui suggère en fait le passage du papier, du végétal au minéral de la pierre, du crime de bureau au crime réel, voilà, avec le burin.
Bon. Voilà. Merci. Nous sommes jusqu'à là restés dans la salle d'exposition du mémorial, mais l'installation des telles investira aussi les couloirs.
Et on peut... Dehors, il y a déjà quelque chose installé ?
Alors, dehors, il n'y a rien.
Ok.
Et donc, sinon, si, il y a la main faite sur la fenêtre. Qui dit, grand-père, comment t'appelles-tu ? Et je trouvais intéressant aussi de montrer que c'était en devenir et que les gens qui souhaitaient pointer leur nez puissent voir que ça devient un lieu aussi où on fabrique des choses et que c'est en devenir. Nous, on a beaucoup travaillé avec les équipes du mémorial pour installer tout ça, et ça a été une aventure absolument fantastique aussi, hein, de travail et de dialogue. Je n'avais pas toutes les solutions en arrivant, enfin, bon, en tout cas l'accueil est merveilleux, ce qui permet de faire exister une histoire. Et puis merci aussi de cette confiance. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a deux lieux majeurs. Il y a l'intérieur de la galerie d'exposition, l'exposition temporaire. Là, on est dans l'enceinte d'Auschwitz et de l'univers carcéral, et qui concerne plutôt mon grand-père. Mais on peut aussi sortir. Et si on ouvre cette porte, on sort par juste cette entrée là qu'on a ici, qui est le vélodrome d'hiver. C'est-à-dire que j'ai essayé de matérialiser spatialement les lieux en me servant du mémorial pour expliquer. C'est-à-dire que l'expérience de la scénographie participe à la connaissance. Et le couloir, eh bien, on est à Paris, c'est pas toujours drôle. On traverse la ligne de démarcation, ça c'est le couloir, il y aura des choses accrochées sur les murs avec des textes. Et puis on arrive dans le Vercors et les cadres sont exposés en relation aussi avec le paysage du Vercors, les fenêtres, les ouvertures et surtout cette sortie vers la liberté, je crois que c'était aussi en lien avec le mémorial. Une vraie envie qu'il y ait ce passage de Paris jusque dans le Vercors. Et on peut, si on veut, ne pas rentrer dans Auschwitz et dans cet univers carcéral. On peut décider de prendre aussi la fuite.
Merci.
Merci beaucoup.
Mais les découvertes d'Ethel Buisson sur l'histoire de sa famille ne sont pas encore terminées.
Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ma grand-mère était résistante, malgré elle, parce qu'elle soignait les jeunes du maquis.
Mais pas malgré elle.
Elle ne l'a jamais dit et mon oncle ne l'a jamais dit. Ouais.
Ça a enregistré parce que je vais allumer pour enregistrer la machine.
Ah oui,
je l'ai enregistré.
Ça, on vient de le découvrir.